Alors, je dois vous dire immédiatement que je ne suis pas un prédicateur, même si dans ma famille il y en a eu plusieurs, mon père, mon frère, parce qu'il est venu la semaine dernière. Je n'ai pas eu ce gène, je ne suis qu'un scientifique, donc vous devrez me pardonner si je n'ai pas le ton du prédicateur. Cependant, je crois que je peux me sentir à l'aise dans cette église, puisqu'effectivement, j'ai quelques anciens élèves là, plusieurs personnes que je connais depuis longtemps à Collonges, que j'ai connues à Collonges, d'autres qui sont là à ma grande surprise. Mais de toute façon, je connais un certain nombre d'entre vous. De plus, on dit que les Belges sont très sympathiques, donc pas de problème. En plus, dernier détail, je suis rentré dans cette chapelle et qu'est-ce que je vois ? Cette œuvre-là, magnifiquement faite, et je me suis aperçu qu'en réalité, c'est une reproduction d'un dessin dont je suis l'auteur. Donc, vous voyez, même le décor est là pour m'accueillir. Je vais donc vous raconter une histoire, cette fois pour les grands, mais qui peut être aussi intéressante pour les petits. C'est l'histoire d'un homme que certains vont trouver touchante, que d'autres vont trouver inquiétante ou désolante, mais qui, en tout cas, vous le verrez, nous fait réfléchir sérieusement. Cet homme naquit il y a 200 ans dans une famille aisée. Il a été élevé dans la foi chrétienne dès son enfance. Sa mère a été la personne qui l'a, pour la première fois, introduite à la Bible. Ses sœurs ont pris le relais puisque sa mère est morte alors qu'il n'avait que 8 ans. Et donc, il a baigné dans une atmosphère chrétienne. Il allait à l'église pendant toute sa jeunesse. Et très rapidement, ce jeune garçon s'est trouvé très intéressé par la nature. Très curieux, il s'intéressait à tout ce qu'il voyait, les petits insectes, les fleurs, etc., les oiseaux. Et naturellement, lorsqu'il allait à l'école, il avait parfois tendance à être retardé par ses observations. Et il nous rapporte ce souvenir. Lorsqu'il voyait qu'il risquait d'arriver en retard, il dit « Je priais ardemment Dieu de m'aider. Et j'attribuais ma réussite non à ma course, mais à ses prières, et je m'émerveillais d'être si souvent aidé. » Donc, il y avait cette foi enfantine qui fait qu'il pensait que par sa prière, il arriverait à l'heure. Et effectivement, il arrivait à l'heure. Un peu plus tard, lorsqu'il arrive à l'âge de 17 ans, son père, qui voulait le pousser dans les études, l'a un peu poussé à faire la médecine. Et pour ça, il a été envoyé assez loin de chez lui, dans une université. Et il recevait donc de la correspondance d'une de ses sœurs. Et cette sœur lui conseillait de continuer à lire la Bible. Et elle lui donne même une certaine méthode de lecture. Elle lui dit « Lis simplement quelques versets ». Et ensuite, médite et prie. Ça vaudra mieux que de lire beaucoup de chapitres à la fois, où là, on ne peut pas se concentrer réellement sur ce message. Et donc, il lui répond, « J'ai essayé de suivre ton conseil au sujet de la Bible. Quelle partie de la Bible préfères-tu » lui demanda-t-il. « Moi, j'aime les évangiles. » Peu attiré par la médecine, On sait qu'il n'aimait pas beaucoup voir le sang, donc il a très vite abandonné. Et son père, qui ne voulait pas qu'il mène une vie oisive, vu que c'était une famille riche, donc il aurait pu se permettre de vivre sur les richesses de sa famille, il lui propose de devenir pasteur de campagne. Assez bizarre quand même, mais quand on sait les habitudes de l'époque, c'est beaucoup moins surprenant qu'on pourrait le croire. En effet, à l'époque, dans ce pays, qui est l'Angleterre, être pasteur de campagne était un rôle qui est très différent du pasteur adventiste d'aujourd'hui. Le pasteur adventiste d'aujourd'hui, il a normalement beaucoup de travail, il est occupé toute la semaine. Le pasteur de campagne de l'époque faisait un sermon tous les dimanches, et c'était à peu près tout. Le reste du temps, il avait beaucoup de temps pour faire autre chose, et notamment, en ce qui lui concerne, étudier la nature. Et d'ailleurs, il y a de très nombreux exemples qui montrent que ceci était relativement fréquent. Il déclare alors, « Comme je ne doutais pas le moins du monde, à l'époque de la vérité stricte et littérale de chaque mot de la Bible, je me persuadais vite que notre credo devait être pleinement accepté. » Il entreprend alors des études de théologie dans une autre université. Et c'est là qu'il lit des ouvrages, notamment des ouvrages de William Paley, pour qui la parfaite adaptation dans leurs moindres détails des êtres vivants montrait que la nature ne pouvait être que le résultat d'un plan divin. Et voici son commentaire à propos de ces ouvrages. La logique de ces livres me procura autant de plaisir que celle d'Euclide. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le plaisir de la logique d'Euclide, géométrie, si ça vous dit quelque chose encore. Je sais que d'autres n'ont pas toujours eu ce plaisir, mais pour lui c'était un plaisir. Et donc, il dit, m'y fiant d'emblée, j'étais charmé et convaincu par l'enchaînement parfait de son argumentation. Cet enfant, à la fois simple, ce jeune qui aime la lecture des évangiles, eh bien, c'est tout simplement Darwin, Charles Darwin. Si son voyage autour du monde lui fait oublier l'intention de devenir pasteur, que là, il a été enfin employé à faire quelque chose qu'il aimait, cela ne veut pas dire qu'il n'a plus la foi. Il dit lui-même, « Lorsque j'étais à bord du Beagle, le bateau sur lequel il s'est embarqué pendant 5 ans, j'étais tout à fait orthodoxe. Et je me souviens d'avoir déclenché de grands rires chez plusieurs officiers en citant la Bible comme autorité incontestable sur un point de morale. Comme la plupart des chrétiens de l'époque, ils croyaient en un monde créé, peuplé d'espèces invariables. Il était donc ce que l'on appelle fixiste, c'est-à-dire quelqu'un qui croit au fait que Dieu avait créé des espèces, toutes les espèces, et qui, depuis, n'ont jamais varié. Mais ses observations de naturaliste tout au long de son voyage autour du monde et particulièrement sur les îles Galapagos l'ont convaincu que les espèces ne sont pas fixes et donc que Dieu n'a pas créé toutes les espèces. Étant parvenu à la conviction que la sélection naturelle agissait sur les espèces et était à l'origine de leur évolution, il se met à douter de l'idée de projet divin si cher à William Paley. Le vieil argument d'une finalité dans la nature, dit-il, comme le présente Paley, qui me semblait autrefois si concluant, est tombé depuis la découverte de la loi de la sélection naturelle. Désormais, nous ne pouvons plus prétendre que la belle charnière d'une coquille bivalve doive avoir été faite par un être intelligent, comme la charnière d'une porte par l'homme. Donc, ces observations l'amènent à douter déjà du fait que les espèces ne sont pas fixes, qu'elles se modifient, et que, vraisemblablement, un certain nombre de choses ne sont pas créées par un être intelligent. La présence de la souffrance et du mal dans la nature sera aussi un gros problème pour lui. Il prendra, par exemple, le cas très commun du chat. Vous avez certainement parmi vous un chat qui se promène chez vous ou qui vous est très familier. Ce chat si agréable, si gentil, quand vous l'observez dans la nature, sauf si c'est un chat qui reste dedans, normalement lorsqu'il est dans la nature et que vous l'observez bien, vous allez voir ce qu'il est capable de faire. Vous avez déjà vu un chat avec une souris ? Ce chat si gentil, qu'est-ce qu'il fait ? Il court derrière la souris, il l'attrape, il la laisse repartir, il la rattrape, il la laisse repartir, puis qu'est-ce qu'il fait ? Un coup de dent, il la tue, quelquefois il la mange même pas. C'est quelque chose qui est à la limite de l'acceptable, si vous y pensez bien, c'est le mal dans la nature. Est-ce que Dieu a créé ça ? C'était là sa question. Le coucou qui s'installe dans le nid des autres et qui sort les œufs des autres pour s'installer, ça aussi c'est dans la nature. Il y a une sophistication du mal dans la nature quand on l'observe. Souvent, on se contente d'une observation superficielle. Ah, c'est beau, c'est joli, c'est grand, c'est merveilleux. Ça montre la grandeur de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais quand on regarde certains détails, quand on est un spécialiste de l'étude de la nature, on s'aperçoit qu'il y a des choses dont on peut difficilement accepter que Dieu en soit l'auteur. Et c'est la raison pour laquelle cette nature où la mort règne ne peut pas être la nature créée par Dieu. Elle est tout simplement due à la sélection naturelle et non à une intervention directe de Dieu. De plus, il connaît lui-même l'immense douleur de perdre sa fille, Annie, qu'il aimait tant, terrassée par la maladie à l'âge de 11 ans. Sa femme, extrêmement pieuse, avait beaucoup prié pour que sa fille puisse revenir dans un état de santé normal, mais malheureusement, après bien des traitements, plusieurs mois d'attente, cette fille est morte. Et là, c'est certainement un événement qui a contribué à l'éloigner de la religion et à lui faire abandonner l'idée du Dieu bienveillant de la Bible. Dans un premier temps, il perd confiance dans la Bible, et on sait très bien quel a été son cheminement, puisqu'il le révèle dans son autobiographie et dans un certain nombre de ses lettres qui ont été conservées. Et voilà ce qu'il dit. Ce sont des paroles parfois un peu dures, mais qui font réfléchir. J'en venais peu à peu à considérer que l'Ancien Testament, avec son histoire du monde manifestement fausse, la tour de Babel, l'arc-en-ciel comme signe, etc., et parce qu'il attribuait à Dieu les sentiments d'un tyran vindicatif, n'était pas plus digne de confiance que les livres sacrés des hindous ou les croyances d'autres barbares. Nous sommes en train d'étudier les nombres, vous savez les problèmes que ça pose, et ce Dieu vindicatif quelquefois on pourrait le voir dans ces textes, et dans bien d'autres textes de l'Ancien Testament d'ailleurs. Eh bien lui, ça lui posait de sérieux problèmes. Un peu plus loin, il dit « Plus nous progressons dans la connaissance des lois immuables de la nature, plus les miracles sont difficiles à croire. » Autrement dit, la connaissance, forcément, amène à un certain rationalisme. Et donc, le miracle, c'est quelque chose qui, effectivement, rationnellement, est très difficile à croire. Les différences dans les évangiles lui paraissent suffisamment importantes pour qu'il en vienne graduellement à ne plus croire au christianisme comme révélation divine. Donc même le Nouveau Testament, les évangiles qu'il aimait tant, il a la peine à concevoir que ce soit une révélation divine. Au moment où il écrit l'Origine des espèces, en 1859, il s'insurge contre l'idée de punition éternelle. Et il dit ceci, « Je peux difficilement admettre que quelqu'un puisse souhaiter que le christianisme soit vrai. » C'est dur. « Car si c'était le cas, les Écritures indiquent clairement que les hommes qui ne croient pas, à savoir mon père, mon frère et presque tous mes meilleurs amis, seront punis éternellement. Et ceci est une doctrine condamnable. » Dès lors, le rationalisme, le besoin de preuves, prennent le pas sur l'émerveillement pour la nature qu'il avait ressenti 20 ans plus tôt au cours de ses explorations autour du monde. Il passe de la foi chrétienne au déisme. Le déisme, c'est cette idée que Dieu est bien à l'origine des choses, qu'il est bien le créateur au départ, mais qu'ensuite, il va laisser faire cette nature se développer par elle-même. Donc il s'agit d'un Dieu lointain. Ce n'est plus le Dieu de la Bible. Mais s'il reste avec cette idée de Dieu, c'est parce qu'il ne peut concevoir que l'univers et l'homme soient le résultat du hasard. Et il le redit à plusieurs reprises. Ceci lui paraît difficile à admettre que le hasard puisse être à l'origine de l'univers et de l'homme. Puis il se dit agnostique, constamment en proie aux hésitations. Agnostique, c'est donc le fait de ne plus savoir si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Il ne prend plus position. Il a des hésitations constantes. Parfois, il pense que Dieu existe. Parfois, il pense qu'il n'existe pas. Dans mes fluctuations les plus extrêmes, dit-il, je n'ai jamais été un athée, dans le sens d'une négation de l'existence d'un Dieu. Je pense que généralement, et de plus en plus à mesure que je vieillis, mais pas toujours, que le terme agnostique décrirait le mieux mon état d'esprit. Il restera cependant tolérant vis-à-vis des croyances de sa femme, Emma, très pieuse, très religieuse, qu'il considère comme la plus grande bénédiction de sa vie. Il gardera un grand respect pour le christianisme, qui est pour lui la croyance anoblissante en l'existence d'un Dieu omnipotent, et la plus haute forme de religion, la grandiose idée de Dieu haïssant le péché et aimant la vertu. Il s'opposera à tout affrontement entre la religion et la science et reprochera à son ami et chaud partisan Thomas Huxley d'être trop véhément avec ses contradicteurs religieux. En effet, on s'aperçoit que très vite, les partisans de Darwin, comme toujours, étaient plus darwinistes que lui. Très véhément, très anti-religieux, lui-même n'a jamais été cela. Selon les termes d'une philosophe des sciences qui a écrit un article dans la revue Réforme, journal protestant français, elle a dit « Lui qui était croyant sans inquiétude devient pour le reste de ses jours un agnostique tourmenté. » Plus on a de connaissances, plus on a de tourments, disait Ecclésiaste. Le cheminement Darwin en est la parfaite illustration. Cette expérience de Darwin m'interpelle. D'abord, je suis scientifique, j'ai de plus en plus de connaissances. Tous parmi vous, vous êtes dans un domaine ou dans un autre, vous avez de plus en plus de connaissances. Ce qui pousse à se poser de plus en plus de questions. Et les tourments qui s'en suivent sont inévitables. Il n'y a que ceux qui ne se posent jamais de questions qui n'ont pas de tourments. Cette expérience, donc, elle me pousse à me poser la question, comment cet homme, éduqué dans la foi chrétienne depuis son plus jeune âge, qui n'a jamais été lui-même un anti-religieux, même pas un anti-clérical, qui a même soutenu financièrement l'église de son village, qui accompagnait sa famille à l'église. Il n'entrait pas dans l'église, il allait faire un petit tour, puis il reprenait à la sortie de l'église sa famille pour la ramener à la maison. Qui tenait en haute estime la morale du Nouveau Testament, comment a-t-il pu perdre la foi? Les raisons en sont multiples. Mais ces raisons pourraient bien être un jour aussi les nôtres. Prenons-en garde, nous qui nous sommes tentés relativement facilement d'abandonner notre premier amour. Il est indéniable que pour Darwin, son observation de la nature a été un facteur déterminant. Mais, qui n'observe pas la nature? Qui n'avance pas dans ses connaissances? On lui avait parlé d'une nature parfaite, dans son enfance, créée par Dieu, adaptation merveilleuse, œuvre d'un Dieu bienveillant, et il découvre une nature remplie de souffrance. Pourtant, d'autres scientifiques, bien qu'évolutionnistes aussi, n'ont pas eu le même cheminement. Et là, je citerai quelques scientifiques français, je m'en excuse, mais enfin, c'est ceux-là que j'ai trouvé. Ils sont pas de la dernière génération, mais enfin, ils sont certains encore vivants. Je citerai Louis le Prince Ringuet, qui lui, je crois, est mort. Il a été le président du CERN. Je ne sais pas si vous connaissez le CERN, c'est tout près de chez moi. C'est un grand centre de recherche en physique fondamentale, c'est tout à fait extraordinaire. Eh bien, ce personnage, très catholique, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie française, donc personnage très haut placé, déclarait « La foi de la jeunesse est-elle condamnée à disparaître ?» avec sa révélation, ses dogmes, ses miracles, ses récits touchants et parfois puérils. Rappelez-vous Darwin dans sa jeunesse. Eh bien, quant à moi, dit-il, ma foi s'est développée, approfondie, malgré ou grâce à mon entrée sans réserve dans l'univers de la science. Jean Dorst, qui fut zoologue au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, et lui aussi membre de l'Académie des sciences, reconnaissait « Pour moi, l'homme n'a pu le devenir que par la grâce de Dieu, touché par le doigt divin comme la représentation de Michel-Ange. » Vous connaissez tous ce tableau, cette peinture plus exactement, dans la chapelle Sixtine, avec ce Dieu qui pointe le doigt vers l'homme qu'il est en train de créer. La grâce de Dieu. Xavier Le Pichon, un géologue, l'un des pères de la tectonique des plaques, cette théorie qui explique donc les déplacements des continents. Eh bien, lui aussi, membre de l'Académie des sciences, titulaire pour un temps de la chaire de géologie au Collège de France, témoignait « Nous, croyants, savons que l'histoire de l'univers n'est rien d'autre qu'une histoire du salut, donc une histoire d'amour. » Une histoire du salut. Une histoire d'amour. Il y a donc des scientifiques de haut niveau qui ont gardé la foi, qui ont discerné, malgré leur science, le message biblique. Quel soulagement! Malgré la connaissance, malgré les tourments, il y a toujours la foi. Mais Darwin et bien d'autres n'ont pas suivi cette voie. Ils ont perdu la foi. Je pense qu'une certaine conception du christianisme a aussi pu et peut encore en être la cause. En effet, Darwin s'est progressivement trouvé en désaccord avec des points de théologie discutables. Par exemple, l'idée de l'inhérence biblique, c'est-à-dire l'idée que dans la Bible, on ne trouvera aucune erreur scientifique, notamment, ne résista pas à sa lecture minutieuse des évangiles. Je rappelle que notre Église n'admet pas officiellement l'inhérence biblique, c'est-à-dire l'inspiration verbale. Lui-même qui disait qu'il croyait en la vérité stricte et littérale de la Bible, eh bien, il s'aperçoit que ça ne tient plus. Une lecture trop littéraliste de la Bible avait amené la plupart des chrétiens à adhérer au fixisme, que ces observations ont mis à mal. Nous rediscuterons de cette affaire dans l'après-midi, ou peut-être demain. On verra bien. Ce même type de lecture a imprégné certains chrétiens de l'image d'un Dieu sanglant, ce qui justifiait à leurs yeux les guerres. Saintes, évidemment. L'enfer éternel pour les non-croyants, ce que Darwin ne pouvait plus concevoir. Enfin, le problème du mal dans la nature, sans doute éclipsé par la théologie naturelle qui décrivait une nature idyllique, tout droit sortie des mains du Créateur, et dont il n'a manifestement pas compris l'origine. Nous avons une explication de l'origine du mal. Darwin n'avait pas compris cette origine. Ne sommes-nous pas aussi concernés à notre époque par cette confrontation entre la connaissance que la science nous fournit sans cesse et qui apporte le doute, et notre foi qui, parfois, a tendance à se figer, à s'accrocher à des notions théologiques discutables? La liste que je vais donner n'est pas forcément celle à laquelle nous nous accrochons, mais c'est à réfléchir. Ce qui peut nous faire que nous nous enfermions dans une position qui n'admet aucune discussion. Savoir et garder la foi, c'est certainement une voie difficile. C'est la voie de l'ouverture qui nous expose aux conflits intérieurs, mais qui nous force à l'humilité. Car ce n'est pas d'abord par la connaissance, mais par la foi que l'on peut comprendre, comme l'ont fait ces scientifiques cités qui ont témoigné de leur foi, cette merveilleuse déclaration de Jean. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue. ces scientifiques, malgré toutes leurs connaissances, ont su reconnaître Dieu dans la nature. Il est vrai qu'ils ont choisi Dieu et Darwin, puisqu'ils sont évolutionnistes. Faut-il que nous fassions le choix Dieu ou Darwin? Nous en discuterons plus tard, mais surtout ne suivons pas la voie de Darwin qui finira par dire, malheureusement, j'ai le regret, il le regrette, j'ai le regret de vous informer que je ne crois pas en Jésus-Christ comme fils de Dieu. La foi en Dieu nous ouvre des perspectives merveilleuses que la connaissance rationnelle, mais limitée aux choses observables, ne pourra jamais nous offrir. La parole est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais au fait, Darwin, si on revient à Darwin, n'est-il pas lui aussi un enfant de Dieu? C'est vrai qu'il apparemment a rejeté Dieu, en tous les cas, le Dieu de la Bible. Pourtant, sa conduite est par bien des aspects tout à fait exemplaire. On sait qu'il a été charmant avec son entourage. Il a été charmant avec ses opposants. Il a été un père tout à fait extraordinaire. Un mari, lui aussi, merveilleux. Il s'est conduit, en fait, en chrétien. Quelquefois, peut-être mieux que certains chrétiens. Dieu le considère-t-il comme un enfant, comme son enfant? Darwin n'a-t-il pas, en quelque sorte, accueilli cette parole, peut-être pas comme nous le pensons? Dieu seul le sait.